Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi.
On a trouvé des bouteilles de gaz qu'on a vite enlevées pour la sécurité. On a trouvé un cumulus, enfin des morceaux de maison, malheureusement. Quand je vois ça, c'est vraiment désolant.
Une mer de déchets sur les côtes des Alpes-Maritimes. Tout ce qui a été détruit par les crues de la Roya et de la Vésubie a déferlé sur le littoral. Reportage à suivre à Saint-Laurent-du-Var. Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, fait mine d'avoir triomphé du Covid. Pouce levé, masque retiré. Mais les images montrent que le président a le souffle court et ses médecins disent qu'il n'est pas tiré d'affaire. Au sommaire également, l'État actionnaire battu et humilié au conseil d'administration d'Engie, qui a validé la vente de Suez à Veolia, et le Covid qui met à terre plusieurs clubs professionnels devenus foyers épidémiques. Dans 10 minutes, invité d'Europe Midi, Philippe Labraud, le journaliste, romancier, cinéaste et homme de radio, livre ses souvenirs et nous parle d'Amérique.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
De la vallée de la Vésubie à celle de la Roya, tout est à reconstruire. Des routes, des ponts, les réseaux électriques et d'eau potable. Si le courant a pu être rétabli dans toutes les maisons accessibles par la route, 5000 foyers en restent privés ce matin, toujours coupés du monde. Des hélicoptères de l'armée ont déposé jusqu'ici une trentaine de groupes électrogènes dans les villages isolés. Les Alpes-Maritimes meurtries pour longtemps, dans ces montagnes, mais aussi sur ces côtes, avec un littoral défiguré par des quantités d'arbres, de terre et de gravats qui se sont déversés dans la mer. Nathalie Chevance, vous avez cela sous les yeux à Saint-Laurent-du-Var.
Oui, le cataclysme est aussi ici sur les plages avec l'impression que la forêt est descendue sur le sable et dans la mer. C'est un enchevêtrement de bois, d'arbres et d'objets en tout genre qui ont dévalé les cours d'eau pour venir s'échouer sur le littoral. Il y en a pour des semaines à tout nettoyer avec la volonté d'une centaine de bénévoles venus pour déblayer comme Marcel.
Là, le but, c'est déjà de trier tout ce qui est déchets plastiques, polystyrène, etc. Et on fait aussi des tas de bois qu'on a tronçonnés et après on viendra avec les engins. On a trouvé des bouteilles de gaz qu'on a vite enlevées pour la sécurité. On a trouvé un cumulus, enfin des morceaux de maison, malheureusement. Quand je vois ça, c'est vraiment désolant.
Des vêtements ont été repêchés, des chaussures, avec le risque et la crainte de retrouver aussi des corps. Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var.
Psychologiquement, c'est très délicat. Voilà, donc on est très vigilant. Vous voyez, j'ai aussi mes policiers autour qui aussi encadrent ces bénévoles. Parce qu'éventuellement, si on devait trouver des personnes disparues, il y a un protocole à mettre en place autour. J'ai une cellule psychologique qui est prête aussi à être ouverte en cas où. C'est la question. On a retrouvé des animaux morts déjà. On vit quelque chose d'effroyable et d'inédit pour nous.
Et le port à l'entrée de Cagnes-sur-Mer est totalement impraticable. Aucun bateau ne peut sortir à cause de cet enchevêtrement de bois dans la mer. Un navire militaire doit être mobilisé pour ouvrir le passage.
Nathalie Chevance pour Europe 1 dans les Alpes-Maritimes. Le bilan de ces crues est toujours de 4 morts. 8 personnes sont portées disparues. 13 autres supposées disparues. L'image de la nuit, Donald Trump de retour à la Maison-Blanche après 3 jours d'hôpital et après avoir envoyé ce message aux Américains, n'ayez pas peur du Covid. Là, on se disait que le président américain ne manquait pas d'air après les 210 000 morts de son pays. Mais en fait, si, Rémi Bossaron, parce que les images qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux sont celles d'un homme essoufflé, qui a des difficultés à respirer.
Oui, l'image qui suscite le plus de commentaires, c'est en fait celle que Trump lui-même a décidé de mettre en scène. À sa descente de l'hélicoptère présidentiel, il monte sur le balcon de sa résidence, se retourne vers les journalistes, retire son masque et lève les pouces, le buste droit et le menton relevé avec un air de défi. Ce doit être, on le comprend, l'image d'un homme qui a vaincu la maladie. Mais beaucoup de commentateurs dans la presse, sur les réseaux sociaux, remarquent en effet surtout son visage crispé, alors qu'il lutte manifestement de longues secondes pour reprendre son souffle après avoir grimpé quelques marches. L'image d'un homme toujours malade, ce qui ne l'empêche pas donc d'envoyer ce message aux Américains.
Don't let it dominate you.
Ne le laissez pas vous contrôler.
Don't be afraid of it.
N'en ayez pas peur.
And you're gonna beat it.
Et vous allez le vaincre. J'y suis allé, je ne me sentais pas très bien. Et il y a 2 jours, je me sentais bien mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. J'ai dit récemment, mieux qu'il y a 20 ans. Ne le laissez pas contrôler, ne le laissez pas prendre le dessus sur vos vies.
Et il invite même ses concitoyens à sortir avec prudence. Lui-même, d'ailleurs, se dit prêt à reprendre sa campagne très prochainement. Pourtant, son médecin le rappelle, même s'il a quitté l'hôpital, il n'est peut-être pas tiré d'affaire. Mais le président a une autre donnée en tête, c'est les sondages. Le dernier en date annonce un écart inédit de 14 points avec Joe Biden.
Rémi Bossaron. En France, les hôpitaux continuent de se remplir. Près de 7300 malades du Covid hospitalisés hier. 700 de plus en 24 heures, dont 1400 en réanimation. En Île-de-France, l'occupation des lits de réa par les personnes infectées atteint maintenant 37%. À Paris, la fermeture des bars est entrée en vigueur aujourd'hui. Et face aux images de cohue sur plusieurs lignes de métro, le ministre Jean-Baptiste Djebbari assure que les transports publics ne sont pas un lieu de contamination. À Marseille, revirement de la mairie, il n'y aura pas de conseil scientifique marseillais, comme l'avait proposé la deuxième adjointe Samia Ghali, mais une simple commission technique de travail sur le Covid. La maire Michèle Rubirola fait savoir qu'elle ne veut pas de guerre Marseille-Paris. Et dans cette pandémie, le sport professionnel est de plus en plus touché avec des clubs entiers devenus foyers épidémiques, Simon Rubin.
Oui, exemple à Pau, où toute l'équipe professionnelle du club de basket est malade. Une bonne partie de l'équipe jeune est également contaminée. Hein, contamination qui aurait pu avoir lieu dans le car qui emmenait l'équipe à un match. Résultat, le club n'a pas pris part aux deux dernières rencontres de championnat. Les revenus billetterie déjà maigres sont à zéro. Et il n'y a pas que le basket qui est concerné. En rugby, en ce moment, deux clubs du top 14 sont à l'arrêt. Castres et le Racing. Au Racing, par exemple, on compte 9 cas de Covid dans le groupe et en interne, on en redoute de nouveau. Les matchs de championnat de ces clubs clusters ont évidemment été reportés. Surtout, le Racing redoute de ne pas pouvoir prendre part à sa finale de Coupe d'Europe le 17 octobre et de perdre sur tapis vert. Alors, basket, rugby, ce sont des sports de contact où la contamination est plus facile. Mais même en foot, le risque est là. Hier, Adrien Rabiot a déclaré forfait pour le début du rassemblement des Bleus, car deux de ses coéquipiers de club ont été testés positifs. Les Bleus qui vont recevoir l'Ukraine demain soir, des Ukrainiens privés de 6 joueurs infectés par le Covid ou considérés comme cas contact.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. L'économie, c'est l'épilogue de la fusion Veolia-Suez. Plus rien ne s'oppose à ce que Veolia, numéro 1 mondial de l'eau et des déchets, avale le numéro 2, Suez. Le principal actionnaire de Suez, Engie, ex-Gaz de France, a validé hier soir la vente à Veolia contre l'avis des représentants de l'État. Emmanuel Dutheil, c'est sans précédent dans une entreprise de cette taille et de cette importance. L'État actionnaire ne fait plus la loi.
Oui, on peut même parler d'un camouflet quasi historique pour l'État. Il a plutôt l'habitude, même avec de petites participations, de réussir à imposer ses vues. On peut donner comme exemple récent le fait qu'il ait réussi à bloquer la fusion entre Renault et Fiat ou le fait qu'il co-dirige quasiment Air France. Mais là, hier soir, patatras, malgré une participation de quasiment 24% de l'État, eh bien la direction d'Engie n'en a fait qu'à sa tête. Et pourtant, Bercy a tout tenté. On raconte que les administrateurs CFDT d'Engie ont été appelés, mais ils n'ont pas voté contre le projet. Il faut dire que cette offre était difficile à repousser. Même Bercy reconnaît que le prix payé est bon. Et surtout, c'était la seule offre. Alors ce matin encore, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, appelle Veolia et Suez à reprendre les discussions pour créer un projet en commun. Selon lui, les deux groupes étaient à quelques centimètres d'un accord. On peut plutôt parler de kilomètres, reconnaît-on, dans les deux états-majors aujourd'hui à la mi-journée. Et pourtant, je peux vous dire que les deux groupes sont rarement d'accord ces dernières semaines. La seule certitude, au moment où l'on se parle, c'est que les discussions entre les deux ennemis vont être très longues et très tendues.
Emmanuel Dutheil, le prix Nobel de physique décerné à trois pionniers des trous noirs. C'est partie de l'univers d'où rien ne peut s'échapper. Le britannique Roger Penrose, l'allemand Reinhard Genzel et l'américaine Andrea Ghez. Le temps, Anissa Dadi, c'est pas un trou noir, mais c'est de la pluie encore cet après-midi.
C'est très gris, effectivement, Patrick, cet après-midi sur la moitié sud, en particulier pour presque toutes les régions situées au sud de la Loire. L'après-midi va donc se dérouler sous la pluie. En bord de Méditerranée aussi, des petites averses arrivent. Il n'y a que sur le pays niçois que le temps reste sec et ensoleillé. Mais attention, le vent souffle. Attention également en Auvergne, dans les Alpes et en Aquitaine, où là, les pluies pourront être soutenues. Au nord de la Loire, le ciel est partagé entre nuages, averses et éclaircies. Mais vous aurez la chance de voir un peu plus de soleil. Sur les Hauts-de-France, attention, le temps tourne à l'orage cet après-midi et le vent d'ouest souffle sur toute la moitié nord du pays jusqu'à 70 km/h, même dans les terres. Les températures, elles sont en dessous des normales de saison et en plus, avec l'humidité, on a vraiment une sensation de fraîcheur. 13 à Annecy, 15 à Besançon et Lille, 16 à Quimper et Lyon, 17 à Paris, 20 à Marseille, 22 à Bastia. Bref, vous l'avez compris, c'est un temps idéal pour aller voir l'expo Louis de Funès que vous représentez brillamment avec ce magnifique pins, Patrick.
Ben oui, l'expo Louis
c'est
de Funès,
très beau.
C'est à la Cinémathèque à Bercy et c'est jusqu'en mai prochain, donc vous avez le temps d'aller le voir et si vous n'êtes pas à Paris pour un prochain passage ou un prochain séjour. Un mot encore avant de tourner la page de ce journal. Je vous annonçais tout à l'heure à midi la libération, la dernière otage française dans le monde, Sophie Pétronin, qui avait été enlevée il y a près de 4 ans dans le nord du Mali par des hommes armés. armée. Cette information n'est pas encore confirmée, même si une partie de l'entourage de Sophie Pétronin espère en cette libération. Le fils de Sophie Pétronin fait route vers Bamako, mais pour l'instant, pas de confirmation officielle. Il faut rester extrêmement prudent sur la fin de ce calvaire de 4 ans. Voilà pour le journal.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, les beaux souvenirs de Philippe Labro, journaliste, écrivain, cinéaste, homme de radio.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Philippe Labro.
Bonjour.
J'irai nager dans plus de rivières. Vous avez emprunté le titre de votre livre à un poème de Borges. Si je devais revivre ma vie, j'irai grimper plus de montagnes, j'irai nager dans plus de rivières. Et pourtant, vos rivières sont multiples. Vous avez été reporter, vous avez réalisé des films, dirigé une radio, écrit des romans, des chansons, côtoyé des personnalités exceptionnelles dont vous parlez avec amour et admiration, collectionné des phrases, des citations qui par dizaines parsèment votre récit. Ce livre, c'est l'inventaire d'une vie, un inventaire heureux.
Ah oui, oui, ben bien sûr, un inventaire d'un homme qui a eu beaucoup de chance. Encore que la chance, hein, ça se fabrique, hein, c'est les circonstances qui comptent. Oui, c'est l'itinéraire d'un curieux de la vie, d'un curieux des gens. Oui, c'est pas un bilan, ça n'est rien de testamentaire, au contraire, puisque j'annonce à la fin du livre le prochain bouquin, qui est déjà au bout de mon stylo. Mais c'est une manière, au fond, de regarder en arrière la rivière, de l'avoir coulée et de penser à où elle va aller.
C'est tout ce que vous emporterez, écrivez-vous, oui. Au contraire du grand chef Bernard Loiseau que nous avons connu, qui s'est donné la mort et qui vous avait dit un jour « Philippe, on n'emportera rien ».
Oui, j'étais venu le remercier parce qu'il m'avait invité pour tout le week-end, alors que je m'apprêtais à payer en sortant à la réception de l'hôtel avec ma famille. Et j'étais un peu surpris. Je lui ai dit, écoute, franchement, Bernard, faut pas faire ça, c'est pas possible, tu me gênes. Et il me regarde et il me dit, Philippe, on n'emportera rien. Et cette phrase m'a hanté. Et je me suis dit, mais oui, il a rien emporté, le pauvre, il s'est tué 2 ans plus tard. Mais moi, si je devais partir, j'emporterais tout. Et tout, c'est effectivement toute une série, au fond, de souvenirs qui peuvent correspondre d'une certaine manière au « Je m'en souviens » de Pérec.
Oui, c'est vrai. Vous emporterez beaucoup de très belles rencontres, à commencer par celle de vos mentors. Oui. Pierre Desgroupes, grand journaliste, très grand intervieweur. Jean-Pierre Melville, votre mentor en cinéma, on va en reparler. Pierre Lazareff, le mythique directeur de France Soir, qui vous donne une leçon de bienveillance ou de tolérance. Jeune journaliste, vous êtes l'un de ses chouchous au journal. Un jour exaspéré, vous allez le trouver dans son bureau. Pierre, vous êtes entouré de cons. Et il vous répond ?
Il me répond avec beaucoup de condescendance et pour une fois un peu de vivacité, alors qu'il m'adorait. Il me dit, en me regardant très sévèrement, « Mais Philippe, j'aime aussi les cons. » Et c'est une phrase géniale. Ça voulait dire « J'aime tout le monde. » D'abord, on est toujours le con de quelqu'un, donc ça va. Hein. Et puis, j'aime les gens de toute classe, de toute différence. Et j'ai souvent pensé à cette phrase, lorsque plusieurs fois, je me suis trouvé face à des collaborateurs ou des collègues, et je me suis dit toujours, attention, il faut les aimer. Il vaut mieux aimer que détester. Il vaut mieux admirer que haïr.
Vous-même, Philippe Labro, vous racontez comment... Si je puis dire, vous vous êtes comporté comme un con.
Tout à fait.
Avec Jean-Louis Trintignant, sur le tournage de 100 mobiles apparents, votre deuxième film, parce que Jean-Pierre Melville, vous avez convaincu qu'un bon metteur en scène se devait d'être odieux sur un plateau, et c'est l'un de vos grands regrets.
Oui, c'est-à-dire que Melville m'a donné des conseils extraordinaires, c'était un mentor vraiment remarquable, il m'a livré son savoir et son savoir-faire, mais c'était un homme qui considérait qu'il fallait être détesté sur un plateau. C'était son psychisme, c'était un homme assez compliqué de vous à moi, qu'on pourrait définir comme un vrai pervers narcissique.
Et il a eu des rapports orageux avec Belmondo, avec Ventura.
Mais Ventura à côté de lui, et pendant le tournage, Melville se retourne vers l'assistant, Ventura est à côté de lui, il lui dit « Dites à Monsieur Ventura que le plan est prêt ». C'est hallucinant. Bon bref, et moi comme un con, donc j'ai écouté ses conseils qu'il fallait être détestable avec vos comédiens. Enfin, plutôt le comédien principal. Et ce que j'ai été avec Jean-Louis Trintignant, qui joue le rôle de l'inspecteur Carella. Et donc j'étais odieux. Et je m'en suis rendu très vite compte une fois que j'ai fini de tourner.
Ouais.
Une fois que l'euphorie du tournage, l'euphorie narcissique là encore, d'avoir tourné mon deuxième film, je me la jouais comme disent les enfants, et je me suis retrouvé sur la table de montage et je regardais ce qu'avait fait Trintignant, je me disais c'est extraordinaire, mais comment As-tu raté ta relation humaine avec lui? Oui. Tu n'as sans doute pas raté ton travail de metteur en scène, mais ta relation humaine. Et je m'en suis beaucoup voulu, au point qu'effectivement, dans ce livre, je raconte tout cela, et je lui écris une lettre, non pas d'aveu, mais de pardon, en lui demandant pardon et en lui disant ce qui est la vérité, c'est que je l'admire.
L'Amérique, Philippe Labreau, votre désir d'Amérique, vous êtes un américanophile lucide. L'Amérique, écrivez-vous, est un pays d'ingénieurs, d'inventeurs, de créateurs. Ils ont fait le monde moderne. L'Amérique est aussi un pays d'incultes, de racistes, de butés, armes d'assaut à la main, bière dans le ventre et vote inconditionnel pour les fabricants de guerre. Quelle Amérique va l'emporter ?
Ah bah c'est une vraie question. Hein. Je m'interroge tous les jours. J'ai passé une nuit blanche l'autre soir à regarder ce débat invraisemblable entre Biden et Trump. Je ne sais pas quelle Amérique va l'emporter. Ce que je sais, c'est qu'elle a pris un vrai coup. Et à son image, à son prestige, et même à son système de fonctionnement, j'ai des doutes, j'ai des inquiétudes et des craintes. Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas.
Mais vous avez, pardon de oui. cette formule un peu triviale ou banale, vous avez mal à votre Amérique, à celle qui vous a fait rêver enfant.
Celle qui m'a reçu, qui m'a hospitalisé, quand je suis arrivé à 18 ans comme jeune étudiant ne connaissant personne, où j'étais reçu dans les familles, où j'étais reçu par les copains étudiants, où j'ai appris toutes sortes de choses. Oui, cette Amérique-là, mais pas seulement celle-là, notre Amérique, c'est-à-dire, cher Patrick, l'Amérique aussi bien de Louis Armstrong que de Fitzgerald, que de Hemingway, que de Bill Gates, que de tout ce pouvoir cérébral, intellectuel, culturel, face à l'autre Amérique, effectivement, qui est celle des Blancs insatisfaits du Middle West et qui suivent leur leader, qui est au fond, selon moi, et je pèse mes mots, une incarnation du mal, avec un M majuscule.
Une incarnation du mal.
Ah oui, ah bah oui, oui, oui. C'est un diable, cet homme.
Philippe Labreau, on va continuer de feuilleter les souvenirs de vos grandes rencontres, Hallyday, Gainsbourg, Lucchini, Belmondo, Romain Gary, Tom Wolfe, dans un instant.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Avec Philippe Labreau et son autobiographie heureuse, j'irai nager dans plus de rivières où l'on découvre l'importance dans votre vie des nightclubs et des chaussures. Puisque si Johnny Hallyday vient vous parler dans une boîte de nuit, c'est parce que vous portez comme lui une paire de Santiago. Si Fabrice Lucchini vous tape dans l'oreille alors qu'il se trémousse, vous le repérez dans un club, c'est qu'il vous demande si vos chaussures sont cirées en dessous, comme Vittorio De Sica. Et Gainsbourg aussi, rencontré en boîte. L'une de vos plus belles rencontres, dites-vous, avec une marque de confiance extraordinaire, puisque lui, immense parolier de la chanson française, vous demande d'écrire à sa place les paroles des prochaines chansons de Jane Birkin de cet album. Lolita, Lolita, Lolita Go Home. Lolita Go Home, l'une des chansons que vous avez écrites pour Birkin et dont vous avez vu et entendu la musique créée sous les doigts de Gainsbourg, Philippe Labreau.
Oui, ça aussi, c'est un des grands moments de mon existence. Donc j'étais devenu copain avec Serge, il m'estimait sans doute, avait-il lu des choses, bref. Et un jour il me dit, écoute, je suis très, très occupé, je prépare mon prochain film, j'ai un disque à faire pour Jane, voilà des titres, tu fais les paroles. Ouais. Je lui dis, écoute, tu rigoles, c'est toi le meilleur parolier de France. Non, vas-y, je te donne les titres. Alors déjà, donner des titres, comme vous le savez Patrick, le titre c'est le concept. Donc déjà ça m'encadrait un peu à peu près. Il dit, vas-y gamin, il m'appelait gamin, on avait quelques années de différence, c'était un peu plus âgé que moi. Donc j'ai écrit... Oui, une dizaine de titres, je lui ai apporté. Et une nuit, je l'ai vu prendre chaque feuillet, le mettre devant sur son piano, s'asseoir, allumer une cigarette, évidemment un verre pas rempli d'eau à côté de lui, et se mettre à composer en direct, pendant toute la nuit, chanson après chanson. J'assistais à quelqu'un en train de créer une chanson, de l'inventer, de faire rentrer mes mots dans son corset musical. Et c'était un privilège. J'ai jamais vu ça. Et ça m'a évidemment beaucoup appris, parce que vous voyez le génie au travail. Parce que pour moi, Serge est du génie.
Ouais.
Et c'est pas un mot que j'emploie souvent.
Vous avez des pages magnifiques sur Johnny Hallyday. Vous reproduisez aussi le discours que vous avez prononcé à la Madeleine lors de ses obsèques. Et vous racontez l'histoire de cette chanson.
Il aime les filles au sein nu. Il est est né à San Francisco. Oui, Jésus, Jésus qui, Jésus qui est un hippie.
Jésus-Christ qui aime les filles au sein nu et fume de la Marie-Jeanne. Philippe Labrault, cette chanson vous a poursuivi pendant 20 ans.
Exactement. Donc on l'a sorti, c'était un petit scandale, même un gros scandale. J'ai même été un peu convoqué par un représentant de l'archevêché de l'époque qui m'a fait quelques remontrances et m'a dit que ce n'était pas vraiment nécessaire, monsieur Labrault. Très bien, là-dessus, la vie a continué, ça a été un très gros succès, ça m'a permis aussi de continuer à travailler avec Johnny. Bref, 20 ans plus tard, je dirige une grande radio, RTL pour ne pas la nommer, et nous recevons, comme tous les matins, une personnalité, Monseigneur Lustiger. Il arrive, il est interrogé, et courtoisie oblige, je l'accompagne, je le raccompagne à la sortie dans la rue Bayard. Il monte dans la voiture, là-dessus, il se retourne vers moi et me dit « Était-ce bien nécessaire, monsieur Labrault ?» Ça m'a totalement scotché. Ça voulait dire quoi? Qu'il avait ses fiches, qu'il travaillait comme un homme politique. D'ailleurs, Lustiger était en fait une personnalité religieuse, certes, spirituelle, mais politique. Et que celui qui m'avait m'origéné quelques longues années auparavant lui avait transmis cette phrase. Et donc, je suis resté là encore quoi? Et je ne pouvais pas lui répondre. Mais vous savez, c'est ce que j'ai essayé de mettre dans le bouquin aussi. C'est mes chutes, mes erreurs, mes failles. Des moments comme ça où vous redevenez, si vous ne l'avez jamais été, vous l'êtes, humble et modeste.
Oui. Et avec toute l'admiration nécessaire pour les grands personnages que vous avez côtoyés ou des seconds rôles. Je pense notamment à ce que vous racontez sur Charles Denner.
Oui, qui n'était pas un second rôle, hein, Patrick.
Qui était un très grand acteur, ouais. Mais qui...
oui, il est le second dans L'Héritier, le second de Belmondo.
Il est le second de Belmondo et qui... Belmondo... meurt dans ses bras à la fin. Vous racontez la façon dont il a pu
il s'est tellement imprégné du personnage que quand il est sur Jean-Paul qui est mort, l'héritier, pas Jean-Paul, il donne une émotion, un chagrin, une tristesse sans larmes, rien, mais dans son visage très forte, au point que quand je dis couper, que la séquence est terminée, il me dit je pourrais pas la refaire. Alors vous savez très bien, et c'est une loi, qu'il faut quand même faire au moins deux prises. Bien souvent, la première est la meilleure, mais là, on me dit qu'il faut la refaire. Donc je vais voir Denner, qui est assis dans un coin, très tranquille, et encore habité d'ailleurs par l'émotion. Je lui dis « Charles, je suis désolé, il va falloir la refaire ». Il me dit « Mais ça va être très dur, Philippe ». Enfin bon, vous me le demandez, je vais le faire. Il l'a fait, il avait conservé la force et le talent d'un grand comédien pour redonner la même émotion, et c'était la meilleure prise.
Merci beaucoup Philippe Labrault. J'irai nager dans plus de rivières, c'est à lire chez Gallimard. Merci à vous.
Merci.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le 13h, Christophe Lamar, La France bouge, Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.